Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 36, le chapitre 391 de Mission Encre Noire qui commence. Quand je marche sur le chemin de fer à côté du parc Jarry, je ne marche pas vraiment. Je cherche. Là-bas, le son de mes pas dans la broussaille m'hypnotise. J'avance. Chaque bruit envahit l'espace en un instant jusqu'au battement lent des ailes d'une corneille volant au-dessus de la voie ferrée. Le silence qui se heurte au contour de l'espace. Sol rocailleux, arbres, rares immeubles bordant la traque. Seul, je me retrouve souvent dans cette posture, marchant, me sentant investi d'une mission de sensibilité, à l'écoute d'une présence au monde. Je cherche à m'imprégner de la trace du temps, des choses. Si Montréal était un pot de céramique brisée, une de ces fêlures serait le chemin de fer du Canadien Pacifique. Mes pas qui foulent cette fêlure me connectent à une sensation intense. Mon regard se porte au loin, sur les arbres énormes, sur les clôtures de fer des deux côtés. Une seule voie à suivre. C'est si rassurant. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Glu par Clémence Dumas-Côté, paru en 2022 aux éditions Les Herbes Rouges. Glu, nom féminin, colle forte, matière végétale visqueuse et collante, comme pour piéger les oiseaux. Personne importune, indiscrète. Il y a un peu de tout ça dans les liens qui relient Théo, Simon et la narratrice. Depuis sa séparation, elle s'occupe de bébé 2 ans, 1 semaine sur 2. Elle pleure parfois, trop, pendant des heures. Ça lui arrive de l'oublier, de la laisser jouer avec un tesson de verre, de l'empêcher de sortir de sa chambre aussi. Ou peut-être est-ce le produit de son imagination ? En revanche, un soir de mai, un mercredi pour être précis, un voisin, Simon, se laisse tomber du toit. Que s'est-il passé ? Étonnamment, elle se sent fascinée et interpellée quelque part, elle revit. Théo, un des témoins, pourrait lui donner des réponses aux questions qui l'obsèdent. Toutes, sauf une. Qu'est-ce qui la retient de commettre, elle aussi, l'irréparable ? Son quartier, c'est parc extension depuis 8 ans. Entre vêtements indiens à vendre et pâtisserie grecque, elle essaie de faire correspondre les morceaux brisés de son monde fissuré, de sa rupture avec le père de bébé, de sa dépression, de ses histoires familiales, en se branchant à cette imperceptible source, à cette glu, pour refuser l'appel du vide. J'accueille ce soir à Mission Encre Noire Clémence Dumas-Côté. Bonsoir Clémence.
Bonsoir Eric.
Vous êtes né à Montréal, vous avez effectué des études en interprétation à l'École nationale de théâtre du Canada, vous détenez une maîtrise en création littéraire, vous avez publié des nouvelles et des poèmes dans Moebius et Estuaire, 2 recueils de poèmes, L'Alphabet du Don en 2017 et La Femme Assise en 2019 aux Herbes Rouges. Glu est votre premier roman aux éditions Les Herbes Rouges. Glu, c'est un drôle de titre. Est-ce que ma définition vous convenait, celle où je disais nom féminin, colle forte, matière végétale visqueuse et collante, comme pour piéger les oiseaux?
En fait, non, le truc au sujet des oiseaux, je ne l'avais pas entendu. Puis moi, je l'entendais plus c'est plus le jeu, en fait, la pâte, l'espèce de pâte à modeler qu'on peut trouver dans des magasins à bas prix, le genre Dollarama, que les enfants aiment manipuler, qui ressemble, on appelle ça de la slime en anglais. C'est comme une pâte élastique, jaune, verte, souvent c'est des couleurs fluo. Et donc ça, c'est de la glu pour moi. Mais la glu, c'est sûr que c'est aussi beaucoup un reflet d'une sorte de bande passante qui circule entre les gens, entre nous, différentes parties, dans le fond, qui nous constituent. J'ai été intéressée de faire peut-être un parallèle entre notre façon de nous connecter dans la vie, de nous connecter aux autres, de nous connecter à notre monde, et aussi ce qui peut coller entre nous des parties de nous-mêmes. Donc, je remarque que des gens de ma génération peuvent être j'observe qu'on peut être souvent en train de, par exemple, d'écouter beaucoup de se brancher finalement à toutes de sources d'informations. Si je me lève le matin, j'écoute la radio sur mon téléphone, je vais courir, j'écoute un podcast, je m'arrête pour prendre un café. Bon, je fais pause pendant 2 secondes, mais je continue. Après, je me branche constamment. Je suis en train de me brancher puis me débrancher constamment de quelque chose qui est pas matériel, tu sais. Puis ça devient parfois une confusion qui règne, une quantité d'informations plus constante. Donc c'est ça un peu pour moi. Ouais.
Alors qui est cette narratrice qui dit être un tamis de chez Renaissance? Si vous deviez embrosser rapidement le portrait, pourquoi prend-elle soudainement conscience qu'une grosse partie de sa vie lui file entre les doigts?
Ça lui file entre les doigts, ça lui file entre les mailles finalement, entre les mailles du filet. Je pense que cet objet-là qui est usagé, qui a une vie avant, qui n'est qu'un passage, je crois que la narratrice pourrait se définir comme elle est tellement poreuse. Elle est tellement poreuse. Cette glu-là la traverse constamment. Mais c'est une femme, je pense que c'est une femme dans la trentaine qui vit à Montréal, qui est monoparentale, qui mène sa vie, on pourrait dire une vie que sous un œil extérieur, on pourrait dire une vie assez normale, mais en fait, c'est une vie très solide. Ou en tout cas esselée, elle est constamment à l'affût de toutes ces sensations qui la traversent, puis elle mène sa vie à travers les sensations. Mm-hmm. C'est les sensations et la vie la traverse, et c'est comme ça qu'elle avance dans ses jours. Ouais.
Alors, elle connaît un épisode de dépression sévère dans le livre. Alors, de quelle manière se manifeste-t-elle, cette dépression? Vous abordez différents thèmes, les voix, une sensibilité aux choses, aux événements banals de la vie quotidienne. Les moments vides se remplissent. Un arrêt de bus devient un enjeu de tension dramatique, une façade d'immeuble aux fenêtres aveugles, une opportunité de rencontre. Comment se manifeste cette dépression?
J'ai tracé un portrait de la dépression qui soit pas comme clinique, qui soit plus impressionniste, je dirais. J'avais envie de que ça fasse partie aussi de mon travail créatif. Donc, je pense que je l'ai pas nommé dépression non plus. Je pense qu'elle est dans une quête, de connexion à elle-même. Il y a des mémoires qui reviennent, qui remontent à la surface. Et puis, elle a clairement des épisodes de dissociation, de déréalisation. C'est quand elle ne sait plus d'où elle arrive, elle a de la difficulté à parler. Moi, ça me fascine notre rapport à l'élocution. En fait, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Je travaille présentement d'ailleurs un manuscrit pour un livre jeunesse où mon personnage bégait suite à un événement. Donc, le fait qu'on puisse avoir des moments dans la vie des chocs qui font en sorte que notre façon de faire sortir les mots, d'émettre, soit bousculée. Ça m'a toujours fascinée. Mm-hmm. Donc, c'est un des aspects de sa dépression ou de la période qui la caractérise au moment de récit.
S'agissant de d'épisodes de déréalisation de soi, la narratrice se fabrique un stéthoscope de fortune. Alors, effectivement, est-ce une façon de se réapproprier un corps qui lui échappe?
Oui, tout à fait. C'est juste, j'imagine un personnage qui n'aurait jamais entendu ou ressenti ses battements de cœur. On peut imaginer qu'à 5-6 ans, à l'école, les premières choses qu'une maîtresse, qu'une enseignante peut faire comme exercice avec les élèves, c'est « Ok, mettez votre main sur... » Même dans une garderie, on pourrait faire ça. « Mettez votre main sur votre poitrine, à peu près ici. » Puis « Ah, est-ce que tu le sens, ton battement de cœur? » Oui. Mais imaginons quelqu'un qui ne l'aurait jamais senti, mais qui ne l'aurait pas dit. Donc, il dit « Ah oui, je sais de quoi tu parles. » Puis ça continue comme ça. Puis cette personne devient adulte. Et c'est très bien qu'il y a quelque chose tourne pas rond, elle l'a jamais senti son cœur. Donc, elle se met dans des situations où elle monte des escaliers, puis elle veut s'amener à est-ce que je vais le sentir? Puis, pour moi, c'est quelque chose qui sort du réalisme, là. Mais j'avais envie de jouer avec cette fine ligne-là entre un monde réaliste où, je le vis comme plusieurs personnes peuvent avoir, puis quelque chose comme ça. Elle n'a jamais entendu ses battements de cœur. Puis même je dirais que dans sa tête, il y a une petite possibilité là qu'elle n'ait pas de cœur. Elle pense un peu. Mm-hmm. Je trouve que la narratrice se demande si elle en a un. Mm-hmm. Alors, avec toutes ses connaissances.
Nous sommes dans Parc Extension, l'un des quartiers immigrants les plus pauvres au Canada. Sous votre plume, on le découvre en écho, comme hors du temps, dans une sorte de rêverie faite de couleurs, de d'écho de radio commerciale anglo qui joue comme dans la boutique de ce monsieur Sokolov, une boutique spéciale d'ailleurs, qui est branchée, dites-vous, à la mémoire du monde. Ce qui permet d'aborder un thème récurrent du livre, être à l'écoute des absences, des vides, des à côté du bruit. Est-ce que c'est ce que l'on apprend à écouter à travers le vieux téléphone couleur chair que votre narratrice découvre dans la boutique de Monsieur Sokolov? Quels appels prend-elle?
Waouh! Cette boutique-là, elle existe, hein? Elle s'appelle pas Monsieur Sokolov, mais elle est bien sur l'autoroute. Oui, le boulevard Saint-Laurent. Donc, à peu près au nord de Montréal, du côté est. Vous voyez une petite boutique en face, une boutique de miroir, de grand miroir, dans le bout de la boulangerie chez Guillaume. Il y a une étrange boutique où on vend vraiment des trucs bizarres, dont, d'ailleurs, j'ai déjà acheté là-bas une radiographie. Donc, j'ai acheté une radiographie. Et la narratrice, à la fin de l'histoire, va montrer peut-être que je n'irai pas à la fin de l'histoire pour ceux qui n'ont pas lu, mais en tout cas, il est question de radiographie au fil de l'histoire. Et donc, c'est un endroit mystérieux où, oui, des vieilles médailles de guerre, des tresses de... ou des mèches de cheveux sont vendues, puis des vêtements, des bijoux, des antiquités, puis des trucs aussi qui ont pas vraiment d'intérêt ni historique, ni même esthétique. Et cet endroit-là, c'est un endroit que je fréquente depuis des années, mais pas pour les mêmes raisons que la narratrice. Donc, pour moi, c'est un endroit où je peux entrer puis m'inspirer, en fait. M'inspirer parce qu'il y a des histoires qui m'attendent. C'est comme un take-out pour une autrice, cette place-là. Oui, c'est un take-out parce que tu rentres, tu peux avoir, peu importe où tu poses les mains, où tu poses les yeux, il y a une histoire qui t'attend. Et je suis rentrée là un jour et j'ai trouvé un téléphone couleur chair que j'ai acheté d'ailleurs, et seulement que le combiné d'ailleurs. Il n'y avait pas le truc en dessous avec le cadran. Mm-hmm. Puis spontanément, je vois un téléphone à vendre, tu sais, un téléphone comme dans mon enfance, un téléphone en genre de bakélite, je sais pas comment on prononce ça, mais en tout cas, c'est un genre
en
de
bakélite, ouais, en bakélite.
En bakélite, c'est ça. Puis je prends, c'est drôle, j'ai posé à mon oreille spontanément, tu sais, parce que qu'est-ce que tu veux faire d'autre avec le téléphone, finalement, j'ai pas l'observé. Je ne vais pas le tourner entre mes mains, je le prends, je le mets à mon oreille. Puis, c'est drôle, j'ai comme attendu, comme si j'étais en attente. Comme si ça... Mais c'est toujours ça qu'on fait avec un téléphone, on attend que la personne réponde, finalement. Puis je savais qu'il n'était pas branché, là, je savais ça, mais c'est juste comme les gestes me menaient à cette expérience-là. Mes mains me faisaient avancer dans ce moment-là. Puis, la sensation était étrange. La sensation qu'il y a personne dans l'autre bout, c'est sûr, mais puis en même temps, ce moment-là me reliait, cette expérience-là me reliait à toutes les fois où j'ai été en attente, où j'ai attendu, où il y a eu un silence avec quelqu'un au téléphone.
Un mercredi matin, votre narratrice découvre qu'un certain Simon s'est suicidé en face de chez elle, dans la petite Inde. C'est ce que titre le journal de Montréal. Quel rôle va jouer cet événement dans sa vie? Pourquoi autant de fascination soudaine pour ce suicide?
Cette narratrice-là, elle est déjà, à chaque fois qu'elle est sur un balcon, sur un pont, elle remarque qu'il ne serait que d'un geste. C'est une pensée qui l'habite constamment. C'est une pensée qu'elle est à quelques secondes, une décision près d'un changement énorme. Hein? D'un changement, oui, là, je vais passer de la vie à la mort. C'est comme... Elle voit comment l'espace est tellement fin entre sa réalité puis une autre. Et ça l'habite constamment. Et quand elle lit dans les journaux rapidement, elle lit dans les journaux que c'était pas un gars qui était déprimé, c'était pas un gars qui était intoxiqué, personne vraiment comprend le geste, tu sais. Et, bon, tranquillement, elle fait des recherches, puis elle apprend que même, il aurait comme levé les bras dans les airs, comme en s'extasiant. Mm-hmm. Elle se dit, est-ce que ça se peut qu'il y ait d'autres personnes comme moi qui voudraient mourir pour vibrer encore plus, tu sais? Mm-hmm. Pas par tristesse consciente, mais plus comme pour une ascension plutôt qu'une descente, tu sais?
Oui, d'ailleurs, si vous me le permettez, votre narratrice déclare « Je suis peut-être attirée par le suicide comme portail. Cela me remplit de pouvoir. On dirait que j'ai l'air sereine.
Oui. »
Elle s'imagine sauter comme une ballerine. Que vit-elle en ce moment de suspension? Pourquoi se sent-elle, s'imagine-t-elle plus vivante entre la vie et la mort? Pourquoi ce désir de légèreté? D'ailleurs, c'est un état que j'associe à une des citations que vous prenez d'Alice Munro qui dit « Demeurer dans cette pièce où il n'y avait personne qui la connaissait, personne qui pourrait exiger quoi que ce soit d'elle, ne pas bouger de là pendant longtemps, longtemps, en s'amenuisant, en devenant de plus en plus légère, légère comme une aiguille. » Pourquoi ce désir de légèreté?
Ah oui, il y a plusieurs éléments là-dedans, mais c'est il y a un moment dans l'écriture où je m'intéressais à la connexion ultime, puis aussi à la déconnexion ultime. Puis, tu sais, ces mots-là, connexion, déconnexion, c'est des mots qu'on entend beaucoup, hein, qu'on entend beaucoup, mais à toutes les sauces. Soyez connectés, connectez-vous. Autant on parle des ordinateurs, de notre téléphone, du Wi-Fi, mais aussi un peu dans le self-care, c'est connectez-vous à vous-même, connectez-vous aux autres. Est-ce que tu es connecté? Donc, je me suis demandé ce que c'était être connecté. Puis, en écrivant, j'ai réalisé que se déconnecter pouvait faire ressentir un peu des sensations similaires à une ultime connexion. Que ces deux choses-là étaient finalement vraiment corrélées. Et je me suis mise à m'intéresser à ce qui existe dans les substances, dans les psychotropes par exemple, ou dans certains états libres, dans des états de conscience altérés, qui pouvaient nous faire ressentir autant une grande connexion qu'une immense déconnexion. Et puis, ben, ultimement, c'est la mort. Hein, le portail de la mort peut, moi, m'évoque ça, en tout cas. Mm-hmm. Il y a aussi la narratrice qui relate un passage, une épisode d'anorexie, hein, qui vous avez nommé d'Alice Monroe, qui est d'ailleurs une femme que j'admire énormément, une autrice que j'admire énormément. Et sa façon de parler d'histoires tellement simples, mais de les élever, la domesticité, le quotidien, sont prennent leurs trois dimensions, leurs quatre dimensions, même, je dirais, sous sa plume, là, vraiment, pour moi. Mais donc, cette légèreté-là, ce portail-là, se reflète dans l'anorexie, dans l'attirance pour la mort, dans l'attirance pour des états altérés. Quand elle cherche, elle se couche sur les rails, elle joue avec ça, avec la mort, elle est comme... Elle se sent puissante aussi, elle se sent sur une limite. Puis dans le livre aussi, il est question du kintsugi, hein, donc de cet art traditionnel japonais où on va relier des pièces de morceaux, par exemple d'une cuillère en céramique brisée, on va les relier avec une laque d'or. Et pour moi, c'est aussi ça, ce portail-là, c'est cette laque d'or-là. Mm-hmm. Entre deux mondes.
Même. Ouais, mais il y a beaucoup de situations où votre personnage décroche de sa réalité immédiate. Elle capte un autre univers, des rêveries. Or, ces moments deviennent, puisque vous en parliez tout à l'heure, comme une drogue dure. Et vous en parlez aussi également dans le livre, puisque votre narratrice s'intéresse à une émission des podcasts diffusée sur une radio qui se nomme Diesel pour l'âme. Et un de ces podcasts traite des drogues dures, de l'héroïne. Et vous faites l'analogie entre le fil de laine d'un métier à tisser et la drogue qui rejoint le réseau du corps pour connaître l'extase. Alors là, évidemment, la question, c'est la glu permet-elle cette extase? Que recherche votre narratrice dans ces extases? Y a-t-il quelque chose à voir avec la grâce, un éclat de splendeur? Elle dit désirer demeurer en perpétuel état de prière.
C'est étrange parce que la glu a comme une différence statique même dans son histoire. Tu sais. Mm-hmm. Je pense qu'elle est comme dans une glu au départ et dans le sens que dans un monde assez embrouillé où elle est très poreuse, hein, et où les liquides la traversent, les liquides, les événements, la vie. Donc comme si elle était dans une glu, la glu la traverse. Puis en même temps, il manque de glu entre elle et les autres. Peut-être qu'il y en a trop de glu entre elle et les autres. Je sais pas. Je pense qu'ultimement, elle va essayer de cheminer vers une vie où il n'y aurait plus la nécessité de cette glu-là pour l'intoxiquer. Puis c'est drôle parce que le podcast, le roman, donc, plus une partie d'un moment où je suis tombée une nuit sur un balado de Serge Bouchard qui s'appelait Petite Noire nommée Diesel. Et c'est un balado où Serge Bouchard, donc anthropologue, hein, la narratrice elle-même étudie en anthropologie, mais l'anthropologue va parcourir le Canada à travers la France canadienne, puis il nous parle de ce divers, de différents trucs, différentes histoires cocasses, touchantes. Et puis, il a parlé de quelque chose qui s'est passé juste avant les années 2000 dans un petit village en Nouvelle-Écosse qui s'appelle Little Bras d'Or, hein, mm-hmm. et où Jésus est apparu dans un Tim Hortons. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, là, carré dans mon lit. Ben, voyons, qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui s'est passé à Bras d'Or? C'est pour que les gens pensent que Jésus était là. Et donc au départ, c'était vraiment la prémisse de mon histoire, de mon roman. Puis finalement, ça s'est transformé beaucoup là. Mais cette ascension là vers plus grand, ben il est aussi à travers, cette ascension là, elle est vécue à travers la quête de ce personnage-là qui va m'emmener apparaître dans l'histoire, qui mm-hmm. finalement n'a plus si grande place, là, ce Jésus de Tim Horton, mais il est toujours là. Et puis le balado, ben c'est, encore là, je reviens à ce que j'observe autour de moi, les jeunes, les gens de ma génération, constamment branchés sur d'autres histoires que la leur. Des séries, des balados, constamment, je suis en train de travailler, je fais la même chose, je m'achète un café, j'écoute une autre histoire. Je plonge constamment dans d'autres histoires que la mienne. Et vous savez, les gens qui... Il y a des gens qui parlent de je sais pas, la 5G, la 4G, je sais pas trop, là, c'est comme des personnes un peu qui ont peur des ondes. Je fais pas partie de ces personnes-là, mais c'est quand même quelque chose qui me fascine que à travers ces choses invisibles, donc les ondes, on écoute la radio, on reçoit Internet. Est-ce que... À quel point mon message ou mon balado ou l'histoire que j'entends sur les ondes est comme autour de moi, dans la proximité de mon corps, tu sais, dans l'air autour de moi, dans ce qui circule autour de moi, tu sais, dans l'espace. C'est que donc ces balados-là sont c'est aussi une façon, c'est comme des rêves, hein, une façon de comme processer, de transiger qu'elle vit, est-ce que c'est elle qui crée, tu sais, à un moment donné, on se demande, est-ce que c'est elle qui crée ces balados-là? Qui est à l'origine de ces balados-là, finalement? Mm-hmm.
Mm-hmm. Alors, le récit est décousu, les souvenirs se disputent aux déambulations de la narratrice, au fil menu de l'histoire, quand on lit le texte une première fois. On est bouleversé par le besoin d'aimer, de se faire aimer de votre personnage, malgré le désespoir qui transparaît à travers ses absences. Est-ce que la rencontre avec Théodore, le voisin direct de Simon, par l'intermédiaire d'un site spécialisé, est-ce que cette rencontre rejoint cette démarche d'aller à la rencontre des autres, de renouer avec la peau, le regard, recoller avec cette distance qui la sépare des autres?
Je pense que au départ, sa volonté de rencontrer Théodore, c'est vraiment très intéressé. Là. C'est pour elle, c'est un moyen de comprendre Simon. Il n'y a pas d'intérêt de lien avec ce gars-là, avec Théodore. Puis elle va se faire prendre à son propre jeu. Finalement, elle va voir que son corps réagit à ce petit d'autre. Qu'elle peut aussi transporter en elle toutes ces histoires, puis tranquillement retrouver les éclats, les tessons de son histoire, tu sais, les transporter avec elle tranquillement, tu sais, les faire, ouais, c'est d'avoir comme dans sa main, entre ses mains, tout en allant à la rencontre d'autres personnes. Puis si je reviens à cette lien, cette vie d'or, là, cette lac d'or, elle va comme être, je pense, en fait, c'est que vous parliez du fait qu'il y avait un aspect décousu, hein, mm-hmm. au récit, puis c'est tellement volontaire. T'sais. En fait, c'est que je pense que la vie-là n'est pas nécessaire et n'est pas désirable du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu une forme éclatée. Éclatée comme cette bande passante, comme ces changements de poste de radio ou ces changements de balado, on fait stop, on arrête, on est... Mais c'est ça qui fait partie du constant de notre histoire aussi.
Dans votre roman, existerait-il un espace, une fissure visible à l'œil nu où Simon ne serait pas mort, mais toujours en suspension, un espace où il grimperait en haut d'un arbre et regarderait la vie des autres avec un sourire? En d'autres termes, est-ce que la littérature vous permet de jouer aux immortels? Je pourrais même ajouter une citation du livre que je transforme un petit peu. La littérature, est-ce que la littérature ou l'acte d'écrire serait pour vous, cela ressemble à une fissure dans une vitre avec la tranche de la vitre transparente en gris? Il y a une fissure, mais je ne sais pas de quel côté de la vitre je suis. Alors, de quel côté de la vitre êtes-vous? Est-ce que la littérature peut rendre immortel?
J'aime beaucoup que vous preniez cette image, la fissure, pour parler de, oui, de la littérature, de ma conception de la littérature. Je pense que c'est drôle parce que, oui, la fissure, puis en même temps, les chemins de fer, ils sont tellement importants pour moi, puis c'est dans ces lieux-là que j'ai vécu des moments extraordinaires dans ma vie. Certains des plus beaux moments de ma vie se sont passés, c'est drôle, sur des chemins de fer, des espaces qui sont de non-lieu, finalement, tu sais. Il n'y a personne qui se promène, mais il y a un côté, il y a l'autre. Puis ça permet une longue marche aussi. Puis peut-être qu'il y aurait une fissure qui apparaîtrait comme ça. Je pense que dans la fissure, bon, il y a la vitre qui est autour, puis il y a les deux côtés. Peut-être, oui, comme le monde dans lequel je vis, puis la fiction que j'essaie de construire et la petite brèche entre les deux. Moi, avec un petit marteau qui... c'est drôle parce que quand j'étais petite, il y avait chez moi, mon père essayait tout le temps d'arrêter de fumer la cigarette. Comme 50 fois, il avait essayé 60 fois en fait. Là. Il vient encore de réessayer d'arrêter. Mais il y avait comme... Quelqu'un lui avait donné en cadeau une petite... petit cadre à accrocher sur le mur avec une vitre, puis derrière un marteau avec une cigarette. C'est comme une blague, genre si t'es vraiment mal pris, non, le marteau est à l'extérieur, casse la vitre, comme on irait prendre une bonbonne pour éteindre un feu, avec une pioche à côté. Mais j'ai l'impression que quand j'écris pas loin de cette pioche, je prends ma pioche, puis je vais faire des petites entailles. Ouais, peut-être que je fais des petits entailles, j'aime ça. C'est vraiment un monde qui est une fêlure, rien de fêlure. C'est un quartier où la fiction et où les histoires sont à la surface, là. La brèche, disons que les petites brèches là, entre fiction et réel, elles sont pour moi, en tout cas, très présentes dans ce quartier-là, particulièrement. Particulièrement. Il y a des personnages à chaque point de vue, il y a des histoires qui traînent par terre en deux poubelles dans un abribus. Tu sais, ça regorge, comme je vous disais, là, l'échoppe de M. Sokolov, qui porte un autre nom là, sur Saint-Laurent, mais c'est comme un take-out pour auteur, mais aussi pour moi, Parkex, c'est comme ça. Et les chemins de fer sont des lieux où on peut marcher des heures et des heures et des heures pour recevoir tous ces accès là qu'on a pu peut-être dont on a pu être témoin.
Jusqu'où peut-vous mener justement une promenade dans Parc Extension, le besoin de vivre des liens vrais, dignes de confiance, rassurants, des liens qui donnent du sens à la vie. Je vous invite à découvrir cette histoire d'une jeune femme qui se branche à cette bande passante vitale, Glu, par Clémence Dumas-Côté, paru en 2022 aux éditions Les Herbes Rouges. Merci Clémence d'être passée à Mission Encre Noire. Hubert contempla les tomates. Certaines grossissaient lentement sous ses yeux, tandis que d'autres rougissaient. Toute la végétation semblait en mouvement. La triste immobilité des pelouses et arbustes bien taillés des terrains avoisinants contrastait avec cette pure manifestation de vie. Il décida de se rendre dans la cour arrière, certain d'y voir un nouveau spectacle. Il sonna à la porte, par acquis de conscience. Toujours sans obtenir de résultat. Tant pis si le propriétaire revenait et le surprenait sur son terrain privé, la situation assez exceptionnelle justifiait amplement cette insolence. De nombreux arbres matures occupaient l'arrière, certains très gros, le tout formant une petite forêt dense et sombre dans l'humus de laquelle ses pas s'enfonçaient. Émerveillé devant ce tableau incongru en milieu urbain, apparu en quelques jours à peine, il se sentait à des kilomètres de la ville, peut-être même hors du temps. Une impression qui n'était pas si ridicule compte tenu de la croissance accélérée dont il avait été témoin. Puis, un bruit le ramena à la réalité. Sous son poids, quelque chose avait craqué. Ceci est un extrait de Bizarrerie du banal, 13 histoires étranges par Éric C. Plamondon, paru en 2022 aux éditions Sémaphore. Bizarre, définition. Qui est inhabituel, qu'on explique mal, d'un caractère difficile à comprendre, fantasque. Pour une première œuvre de fiction, l'auteur n'a pas froid aux yeux. Comment, à partir de situations qui a priori peuvent sembler étranges, inaccoutumées, relever le détail qui fait sens, ou du moins qui donne une porte d'entrée vers la fiction, ou plutôt nous révèle la serrure par laquelle la plume de l'auteur va jouer au passe-partout. 13 histoires étranges où un type qui hésite à aller skier et choisit la terrasse, mais est-il vraiment ce qu'il a l'air d'être ? Ce réparateur télé, qui s'était juré de ne plus retourner chez cette vieille femme, hésite encore. Il peut être périlleux de jouer avec le paranormal, en particulier lorsque l'on choisit Miss Marple, l'héroïne d'Agatha Christie. Et si une paire de lunettes d'un nouveau genre nous permettait de retrouver à coup sûr les objets égarés et plus encore, cela changerait-il la face du monde ? 13 nouvelles de cet acabit où le doute s'installe, où le récit relève le défi de fustiger les attentes pour mieux en révéler le point de chute. Lorsque l'étrange se faufile au cœur du quotidien, j'accueille ce soir à Mission Encre Noire Éric C. Plamondon. Bonsoir Éric.
Bonsoir Éric.
Vous avez participé au cercle d'écriture de l'Université Laval pendant vos études en communication et Bizarrerie du banal est votre première œuvre de fiction. Alors, votre quatrième de couverture dit que vous avez la tête pleine d'histoires. Comment sont nées toutes celles qui figurent ici? Sont-elles toutes des inédits?
Oui, toutes ces histoires sont inédites. Il y en a une qui c'est le réparateur de télé dont tu as parlé tout à l'heure, qui s'est mérité une mention spéciale à un concours littéraire. À ma demande, elle n'a pas été publiée justement parce qu'elle allait être publiée dans un livre.
Stephen King, dans ses conseils d'écriture, déclare « Écrire d'abord pour soi, ne penser au lecteur qu'après ». Lorsque vous écrivez une histoire, est-ce que vous la racontez à vous-même? Lorsque vous la réécrivez, votre tâche principale consiste-t-elle à enlever tout ce qui n'est pas dans l'histoire? Comment procédez-vous la plupart du temps?
Je dirais que je suis pas mal d'accord avec son énoncé parce que, effectivement, quand j'ai écrit mon livre, je savais même pas si j'allais le publier. Donc, dès le départ, ça répond à la question. Oui, j'ai écrit pour moi. Je l'écrivais en ayant en tête que ça pourrait être lu par quelqu'un d'autre éventuellement, mais je l'ai écrit pour me faire plaisir, pour, c'est le genre d'histoire que j'aurais aimé lire. Donc, c'est sûr que j'allais dire, j'étais critique de mes textes, mais c'est certain que l'auteur est plus ou moins critique de ses textes, mais j'essayais quand même de les relire et les re-relire et les re-re-relire.
Alors le titre « Bizarrerie du banal » porte un sous-titre « 13 histoires étranges ». Dans quel registre classeriez-vous ces nouvelles fantastiques, drames? En fait, qu'est-ce qui vous fascine de saisir dans le quotidien ce qui peut être bizarre?
Le sous-titre, c'est parce que si on dit juste « Bizarrerie du banal », on s'entend que sur le coup, ça peut attirer l'attention, mais ça ne dit pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. En disant 13 histoires étranges, ça donne une idée de où ça s'en va. On sait qu'il y a 13 histoires, donc. Puis, ça donne un peu l'idée du registre. Puis, c'est pas du fantastique, pas de la science-fiction, c'est pas du paranormal. C'est étrange. C'est bizarrerie du banal. C'est dans le banal du quotidien, pouf, il surgit une bizarrerie qui vient chambouler l'histoire. Donc, le titre principal vient de là. Puis le sous-titre pour exprimer justement que on peut s'attendre à des histoires étranges. C'est pas des histoires d'amour, c'est des histoires étranges. Quand tu lis chacune des histoires, tu dis oui, ok, il s'est passé quelque chose d'étrange. Puis je pense que les gens vont vont trouver beaucoup de références à leur quotidien, parce que justement, on parle toujours du banal, pour en arriver à, dans ton banal à toi, dans ton quotidien à toi, il peut survenir quelque chose que tout à coup, oh, ça vient apporter une étrangeté. Là, on ne parle pas de quelque chose, pas quelque chose qui survient dans la vie de tous les jours. C'est vraiment un élément déclencheur qui sort un peu de l'ordinaire. La semaine dernière, tu parlais avec Rodolphe qui disait qu'il se mettait en état de voyage. Puis ça, c'est une parenthèse. C'est une chose que je comprends moi-même. J'habite à Québec. Quand je visite, quand je m'en vais me promener dans le vieux Québec, je me mets en état de voyage aussi. Je revisite, je revois les choses du vieux Québec comme si j'étais un touriste. J'essaie de les revoir d'une manière différente.
Avant d'aller plus loin dans l'exploration de vos nouvelles, puisque vous parliez de Rodolphe Lannes qui est passé à l'émission la semaine dernière, mais vous avez une chose encore en commun, c'est qu'à la fin du livre, tout comme lui, vous donnez une adresse Internet pour accéder à une zone cachée. Alors, dites-nous-en un petit peu plus sur cette zone cachée. Pourquoi ce choix, d'ailleurs, de zone cachée?
C'est le making of, la zone cachée, c'est le making of de chacune des 13 histoires. Je suis moi-même amateur de making of quand il s'agit de films qui le méritent. Je veux dire, regarder le making of d'une histoire d'amour du samedi soir, ça m'intéressera pas, mais de voir le making of du Seigneur des Anneaux, ça m'intéresse un peu plus. Mais ceci étant dit, mon livre, c'est loin d'être le Seigneur des Anneaux, mais il reste que j'ai quand même, pour chacune des histoires, il y a une histoire. Il y a des notes qui ont été prises. Moi, je sais que derrière, quand je lis une histoire qui dans laquelle j'embarque, je me dis, ah, l'auteur, il a pris ça où? D'où il a pris son inspiration? Puis je me suis dit, je pourrais faire la même chose. Donc, pour chacune des 13 bizarreries, on sait l'extrait que j'ai écrit, parce qu'en fait, je disais il y a quelques instants que je prenais en note toutes les bizarreries qui me venaient à l'esprit. J'en ai au-dessus, je sais pas, 350 peut-être de prix en note des idées. Ça peut être une ligne, ça peut être un paragraphe. Parfois, je vais faire un paragraphe avec un document annexe parce que je l'ai exploré un peu plus. Tous les éléments, toutes les lignes, toutes les insertions que j'ai faites dans mon répertoire d'idées, ben, si on prend n'importe laquelle des 13 bizarreries, on va voir c'est quoi l'insertion que j'avais faite dans mon répertoire.
Prenons par exemple Une journée entre amis, la première nouvelle du recueil. Vous abordez les enjeux autour de l'identité du personnage. Qu'est-ce qui fait un profil type de personnage pour vous? Est-ce que vous privilégiez le physique, la psychologie, ou bien, comme dans ce cas-ci, peut-être la situation où il se trouve? Qu'est-ce qui vous accroche en particulier?
Oh, il se développe avec l'histoire. Tout simplement, je privilégie rien en particulier. Ça vient avec l'histoire. Mm-hmm. Tout simplement, comme je disais, mes idées de départ, je les prends dans mon répertoire. Des fois, ça peut être une ligne. Puis souvent, la ligne, en fait, je dirais la plupart du temps, l'entrée que j'ai faite dans mon répertoire d'idées, c'est le pivot. C'est la twist de l'histoire. Mais j'ai aucune idée comment elle commence, ni comment elle va finir. Je sais pas comment je vais la développer non plus, puis je sais pas non plus comment vont être mes personnages. Ils se développent au fur et à mesure. J'ai une des histoires que j'ai écrites, c'est récits descriptifs dans lesquels j'ai mes personnages qui évoluent, mais finalement, le titre, il s'appelle récits descriptifs. Mais c'est simplement comment je pourrais dire, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de narrateur extérieur, c'est simplement une description des éléments, de ce que les individus font dans l'histoire. On ne présume pas de « Ah, tel individu pense telle chose » ou « Il a senti telle émotion ». Non, c'est un récit descriptif.
Mmh. Alors, le réparateur télé pourrait tout aussi bien figurer dans l'univers de Raymond Carver, par exemple. Lui qui disait « Une histoire fonctionne lorsque le lecteur a l'espace pour se mettre à la place du personnage ». Alors, pour cette nouvelle, le réparateur télé, vous isolez un détail concret. Une vieille femme passe devant une fenêtre. Enfin, c'est ce que je pensais être le détail concret avant d'être allé voir votre zone cachée. Et vous parlez plutôt d'un rêve comme point de départ. Un rêve qui aura un lien vers la couverture du livre.
Oui, oui, oui. Ben c'est la couverture du livre qui est géniale. qu'elle reprend quelques éléments des bizarreries. Il y a trois ou quatre histoires qu'on peut retrouver sur cette couverture-là.
Ouais,
mais oui, c'est ça. Ça vient d'un rêve que j'ai fait. J'ai pas. Je crois que la dame avec la marchette, elle vient pas du rêve, en tout cas de la manière dont elle est décrite. Elle vient pas du rêve, elle vient d'un entrefilet que j'ai vu sur une histoire de combustion spontanée, une bizarrerie, donc, dans un livre sur des histoires bizarres. Puis il y avait une photo où ce qu'on voyait les restes calcinés d'une personne à côté d'une marchette. D'ailleurs, l'idée de la combustion spontanée m'était venue dans un des développements de cette histoire-là, mais je l'ai pas incluse. Mais l'image que j'ai en tête de la personne, c'est cette personne-là que j'avais vue dans un livre qui parlait de trucs bizarres.
Mmh. Alors, il y a d'autres nouvelles qui explorent l'irrationnel, le fantastique, voire l'étrange. Je pense aux lunettes, je pense à l'actrice, vous en parliez tout à l'heure avec Miss Marple, ou encore le reliquaire. Alors là, vous partez d'un objet, un reliquaire. Alors, on se demande qu'est-ce que c'est un reliquaire et surtout quelle particularité a-t-il. Dans ces nouvelles, quels sont les enjeux pour l'écrivain lorsqu'on parle d'un objet comme ça? Est-ce le rendre crédible? Est-ce rendre crédible une situation exceptionnelle?
Oui. Il faut que tu apportes des détails. Il ne faut pas tomber dans une orgie de détails, mais en donner suffisamment pour que la personne sente que c'est vrai. D'ailleurs, cette histoire-là m'a été inspirée par la peinture de Baiser à la relique de Joaquin Sorolla. J'ai grossi l'image, puis j'ai regardé ce reliquaire qu'on voit dans la peinture. Aussitôt, je me suis dit, on dirait une machine. Puis là, j'ai pris ça en note, puis j'ai écrit l'histoire autour d'un reliquaire qui pourrait être une sorte de machine.
D'ailleurs, j'encourage les lectrices et lecteurs à aller voir sur cette fameuse zone cachée, parce qu'on peut faire aussi un zoom sur la map Google et aller carrément voir des photos, puisque c'est un endroit pour lequel il y a des images, et on peut se rapprocher du décor que vous dressez dans le livre, jusqu'aux marches de l'église dans ce petit village italien. Est-ce que c'était important justement de montrer ces images-là? Pourquoi avoir voulu justement montrer ces images?
Dans le récit, il y a des indications géographiques précises. Puis, il ne fallait pas que je raconte quelque chose qu'un Italien dit non. Ce que tu racontes, c'est impossible. Alors, j'ai fait mes recherches, puis j'ai réussi à trouver le village que je décrivais à l'endroit où je le décrivais. Bon, donc, ça existe. Alors, j'en ai mis la preuve dans ma section cachée. Mm-hmm. Mais surtout ça. Puis aussi pour le plaisir. Parce que les gens se font une image en tête. Puis, quand tu vas voir ça, tu dis, ah, OK, ben je vois quelque chose pour vrai. Puis en même temps, c'est que quand on parle d'un village italien dans la campagne, ben je veux dire, il reste que mon livre est quand même publié au Québec. L'imaginaire collectif de la campagne italienne peut être X, mais il reste que ça peut être une image qui vient plus du passé. Tandis que quand on va voir le street view de ce village-là, on voit qu'il y a des voitures, il y a des fils électriques, on voit que c'est un village contemporain. Parce que l'histoire se passe dans le présent. Alors, ça permet de restituer l'histoire dans le contemporain, mais tout en voyant que c'est quand même un village de campagne et que l'histoire est crédible dans ce village-là.
Mmh. Je me suis demandé aussi si vous étiez un chercheur d'or. Plus précisément, est-ce qu'à chaque inspiration, à chaque idée, correspond à un point tournant? En d'autres termes, est-ce que sans cliffhanger, il n'y a pas d'histoire?
Ben oui, parce que les histoires, comme je disais, les entrées que j'ai faites dans mon répertoire d'idées, ben toutes mes histoires d'idées, tout mon répertoire d'idées, pour la plupart, c'est des cliffhangers. Donc, j'ai le cliffhanger, mais comme je disais, je sais pas où qui commence, ni comment ça va arriver. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a le pivot qui va arriver à un moment donné. Donc oui, sans cliffhanger, j'ai pas d'histoire. C'est tout à fait.
Il y a une série de nouvelles très courtes, Patriote, Ascenseur, L'Accident ou Circuler. Ces nouvelles sont-elles bâties sur une idée en fait toute simple, ou est-ce que, je dirais, pour l'écrivain, tout se joue ailleurs dans la nouvelle? Est-ce que tout se joue, par exemple, autour des dialogues?
Non. Je réinsiste encore. Tout part de la twist que j'ai pris en note, comme par exemple circuler. J'étais à un feu de circulation, puis je trouvais que la lumière rouge était longue et éternelle. Puis je me suis dit, coudonc, ça ne changera jamais. Puis, pouf, le twist est arrivé. Que se passerait-il si les feux de circulation se bloquaient partout, dans toutes les villes, au même moment, sans raison? Comment on développerait cette histoire-là? Sauf que, par contre, j'ai commencé à me raconter cette histoire-là sous forme de dialogue. Puis finalement, toute l'histoire est sous forme de mots, c'est-à-dire de dialogue ou encore de quelque chose que la personne entend à la radio. Donc, un animateur radio qui parle ou encore le personnage principal qui se parle à elle-même ou qui parle au téléphone à des gens. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand tu as fini de lire l'histoire, tu t'en rends pas compte, mais tu dis à quelqu'un, lis l'histoire, tu remarqueras, il n'y a aucune description de lieu. Oui, il y en a parce qu'il y a telle chose. Non, il n'y en a aucune. Tout est sous forme de dialogue ou de conversation.
Mmh. Ah ben justement, je classerai à part des récits au long cours, si je peux dire ça comme ça, comme l'invité, récit descriptif ou encore le visage. Alors je dis au long cours car leur genèse demande un schéma narratif plus étoffé. Dans une nouvelle comme le visage, on commence avec un visage de clown trouvé dans une poubelle et on finit avec un numéro de funambule sur un fil. Je me suis demandé quand même quelle importance accordez-vous aux premières phrase d'une nouvelle comme aux dernières phrases d'une nouvelle? Y a-t-il une règle que vous suivez, une accroche obligatoire que vous devez respecter?
Pour l'intro, non. Puis d'ailleurs, je pense qu'à peu près tout le monde va pouvoir dire que mes intros sont toutes différentes. Puis encore là, j'aurais envie de dire, c'est pas que je m'y efforce, ça arrive comme ça. Je pense à mon histoire, puis les premiers mots me viennent, puis je commence mon histoire comme ça. Mais la fin, étant donné que je disais tout à l'heure que les fins me sont toujours inconnues, quand j'arrive vers la fin, que je sais un peu comment je vais la terminer, encore là, je suis pas une recette, mais par contre, c'est très important la manière que tu la termines. C'est ça qui fait en sorte que ton punch final va être crédible ou non, qu'il va être le fun ou non. Puis il faut évidemment pas que le lecteur le découvre pendant la lecture.
Alors pour finir, est-ce que cette forme d'écriture, la nouvelle, vous convient parfaitement ou envisagez-vous de vous lancer dans l'aventure du roman?
Je me souviens plus quel auteur avait dit « j'écris de la nouvelle parce que c'est tout ce que j'ai le temps d'écrire ». Je vais le paraphraser. J'aime beaucoup, de toute façon j'apprécie beaucoup la lecture de la nouvelle, puis je pense qu'avec le temps que j'ai à consacrer là-dessus, tu sais, quand tu commences à écrire un récit, tu vas avoir un ton. Tu sais, comme bon, tantôt, je parlais que j'avais commencé à écrire une histoire, puis ça se passait sous forme de dialogue. Mais il y a aussi, donc, une forme, mais il y a aussi un ton que tu vas avoir. Puis, si tu passes des semaines, des mois à écrire un roman, peut-être même des années, parce que je me suis échelonné sur 5 ans là, pour écrire ce recueil-là. Si tu échelonnes ça sur des années, ben le ton que tu vas avoir au début va avoir évolué, ce sera pas le même. Pour moi, c'est pas un format qui me conviendrait, je pense, actuellement. Puis c'est pour ça que la nouvelle, ben ça, tu peux t'y consacrer pendant quelques jours, quelques semaines, puis tu vas toujours rester dans le même ton parce que temporellement, t'es plus proche. La fin et la fin et le début sont plus près l'un de l'autre. Donc, non, le roman, c'est pas quelque chose que j'envisage pour l'instant. S'il y a de quoi, ça serait plus un autre recueil éventuellement.
Voilà, pour tous les amateurs et les amatrices de l'étrange et des nouvelles, du format court et dynamique, pour celles et ceux qui aiment douter, remarquer ce qui sort de l'ordinaire, il est fort à parier que ce recueil de 13 nouvelles saura vous interpeller. Bizarrerie du banal, 13 histoires étranges par Éric C. Plamondon, paru en 2022 aux éditions Sémaphore. Merci Éric d'être passé à Mission Encre Noire. We'll be right back. Voilà qui met fin à Mission Encre Noire cette semaine. Le tome 36, le chapitre 391. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Clémence Dumas-Côté pour nous présenter Glu, paru en 2022 aux éditions Les Herbes Rouges, ainsi qu'en deuxième partie d'émission, Eric C. Plamondon qui est venu nous présenter Bizarrerie du banal, 13 histoires étranges, paru en 2022 aux éditions Sémaphore. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là!
Garbo acabou de irajar, hein?
É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
Jorjão! Vai, garoto!
Fala a verdade.
Isso tá bom.
Não, nem a cerveja que eu não sei. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso.
Agora um arame ia pegar bem pra ele pegar um gordurão e depois um arame não ia mal.
Obrigada, Duduca! Mas
não come na cabana carioca, Dudu, que tudo vai pesar mais 10 quilos.
Olha, depois já viu, né?
Olha aí, gestão dá certo.